C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
C'est l'heure de la commission. Nous sommes un tantinet en avance ce matin parce que y a quand même pas mal de choses dans l'actualité qui vont s'ajouter. Mais l'élément le plus, qui fait l'objet de débats depuis hier, ben, c'est bien sûr le projet de loi qui va être déposé demain par Christian Dubé pour créer l'Agence Santé Québec. Et là, est-ce que le ministre est un visionnaire ou est-ce que ce sera un échec colossal? Luc?
Entre les deux.
Entre les deux.
Moi, je pense que le ministre fait bien. Tout le monde le dit à peu près là que c'est dans la bonne direction. Il y a eu hier Lévy, qui était l'ex-directeur de Santé publique Montréal, qui a dit « Wow, enfin! » Il y a eu le...
Monsieur Levine.
Levine, oui, excuse-moi.
Oui, David Levine.
Oui, excuse-moi. Ouais. Il y en a eu plusieurs autres, donc et les commentateurs aussi, tout le monde s'est réjoui. Bon, mais regardons dans le détail si ça peut passer maintenant. C'est pour ça que je dis entre les deux, est-ce que ça va marcher? Il dit des bonnes choses. Est-ce que maintenant ça va être possible de négocier aux conventions collectives avec les infirmières notamment? Parce que là, ce qu'il propose, c'est bon, réduire le nombre de conventions collectives complémentaires. Donc, une convention collective de base. La convention collective de base touche tout le monde. Puis après ça, tu as 136 tables de négociation. Ça s'appelle les points supplémentaires. Il y a différents noms là, pour ça, mais un des éléments, c'est les points supplémentaires. C'est-à-dire, dans tel hôpital, on gère comme ci puis comme ça. Il n'y aura pas ça dans tel CIUS. Il n'y aura plus ça. Ça va être 4 tables de négociation. Ça, ce que ça permet de faire, c'est de donner la même accréditation syndicale à tout le monde, avec la même ancienneté à tout le monde. Ça veut dire que tu peux passer de n'importe où à n'importe où dans le système. Et évidemment que chaque fois que ça a été impossible de passer d'un endroit à l'autre dans le système, ça a été décrié. Et lorsqu'un employé perd son ancienneté, c'est beaucoup décrié. Mais il y a aussi que quand, par exemple, tu peux choisir un hôpital de la Montérégie à côté de chez toi parce qu'il y a une ouverture de poste puis que tu travailles depuis 10 ans à Montréal, mais et que tu habites à côté de l'hôpital, mais tu vas laisser ton poste à Montréal. C'est tellement arrivé souvent en éducation. En éducation, les employés se déplacent beaucoup proches des lieux d'enseignement. C'est bien correct, c'est bien normal, mais ça veut dire qu'il y a des endroits qui vont être abandonnés. Et le système protégeait contre ça. Par exemple, protégeait les gens des régions de quitter la région. Puis dire, ben moi, je suis tanné d'habiter à machin, puis je m'en vais déménager à telle place. Et le mouvement de personnel que ça entraîne, on l'a vu aussi chez Hydro-Québec, le mouvement de personnel énorme que ça entraîne, est-ce que c'est une bonne chose? La deuxième chose, c'est que surtout, ça permet de l'autorité au niveau des spécialistes. L'autorité au niveau des spécialistes, donc il y aura un directeur des soins médicaux qui va dire... Ben, ça, c'est un privilège, c'est un devoir et un privilège de travailler à l'hôpital. Donc, tu es obligé de le faire, mais je peux te le retirer. Et ça change la donne. Et on peut te dire, ben, tu t'en vas, une affectation, une assignation, ça s'appelle la couverture populationnelle, tu vas aller travailler dans tel endroit, parce qu'on a besoin de toi dans tel endroit. Est-ce que ça va marcher? Les spécialistes ont tout le temps refusé ça, puis je les ai rencontrés, je vous dirai tantôt.
OK, Nathalie.
Mais c'est assez fascinant toute cette histoire. Hein. Ça fait 48 heures qu'on discute d'un projet de loi qui n'est pas encore déposé à l'Assemblée nationale, mais pour lequel, il y a espoir, il y a de l'espoir et du scepticisme qui est exprimé. C'est une réforme, il faut le dire, là, qui sera costaude. En fait, ce sera la pièce législative de la présente session parlementaire, mais j'irai plus loin en disant que ce sera la pièce législative du mandat de la CAQ, parce que cette grande réforme, cette refonte, c'est un test de vérité pour la CAQ, étant entendu que depuis un an, le gouvernement, le ministre de la Santé ont fait monter les attentes, là. On nous promet de shaker les colonnes du temple. Là, on va faire appel à des top guns pour gérer cette nouvelle agence. Mais ce qui est intéressant, c'est que, puis j'entendais juste avant qu'on entre en onde de la commission, une publicité des syndicats qui appellent un redressement historique du secteur de la santé. On dit que le réseau Sommeur, stop, on mérite mieux. Bon, ben alors, les syndicats sont appelés aussi à contribuer à cet effort de guerre, j'oserais dire, par rapport au redressement que nécessite le réseau. En fait, il y a deux conditions gagnantes pour réaliser cette réforme. La première, c'est l'appui inconditionnel que devra accorder le premier ministre à son ministre de la Santé et l'appui du caucus. Et on me dit que cet appui, il est acquis. Ça veut dire que ça va brasser, il va venter fort. peut-être qu'il y aura des syndicats qui seront tentés de sortir dans la rue. Et malgré tout, il faudra que le gouvernement résiste à ce vent d'Est qui pourrait arriver. Et l'autre chose, le ministre devra se garder un espace pour négocier. Un espace pour négocier, pourquoi? Parce qu'il y a des points de tension qui sont déjà qui s'expriment déjà. Luc, tu as référé là le fait qu'on réduise le nombre de tables nationales de négociation de 136 à 4. Ça passera pas comme une lettre à la poste. La notion d'ancienneté aussi. Étendre l'ancienneté sur tout le territoire québécois également, ça sera difficile selon moi. Créer des conditions pour convaincre les employés de revenir dans le réseau. Pensez-vous qu'un projet de loi, je sais pas moi, de milliers d'articles va suffire à convaincre les employés à revenir dans le réseau? C'est pas si certain. C'est pas si certain. Mais moi, je salue l'ambition du ministre, sa volonté là, qui semble extrêmement, qui semble être, comment dire, qui s'exprime avec force et énergie.
Je vais aller te provoquer, femme de région.
Provoque-moi, homme de Montréal.
Homme de Montréal va te provoquer parce que, tu sais que, une réflexion qui circule beaucoup dans le milieu de la santé. Puis ce matin, on avait le docteur Gaudreau du Collège des médecins qui disait qu'il y a une iniquité dans l'offre de services aux citoyens. Si tu habites dans une région, ben, tu n'auras pas les mêmes soins, puis ça va prendre plus de temps, puis bon. Et un des éléments de la réflexion, mais que politiquement, personne ne veut faire, là, il faudrait fermer un certain nombre d'hôpitaux en région, concentrer les ressources à un endroit, ce qui permet de, par exemple, pour des médecins, d'avoir assez de volume pour garder le niveau de pratique élevé, puis d'être capable de regrouper, exemple, des infirmières. Que de faire croire aux Québécois qu'on peut avoir tous les hôpitaux qu'on a, puis qu'ils vont avoir du service, ben c'est de la frippe. Et sur le plan des groupes, puis le Collège des médecins, il dira pas trop fort, mais il pense que c'est pas fou, là. Mais ceux qui s'y opposent, ce sont les députés. Puis là, il y a des enjeux politiques. Fait que cet enjeu de la santé, là, c'est bien beau l'agence, là, mais... Comme ex-politicienne, t'aurais-tu fait passer ça, toi, une fermeture
mais
d'hôpital?
Non, ben bon, voyons donc, je t'écoute, écoute, je suis en bas de ma chaise, je mange à coin de mon bureau.
Bon, je savais, femme de région, là, je savais.
Oui. Je t'ai entendu avec Monsieur Maurice Gaudreau, effectivement. Oui. Non, mais j'en revenais pas. Là, je peux pas croire qu'on revient en arrière. Il y a une question d'équité actuellement. Là, on parle de régions, tu réfères à des régions comme la mienne, à Gaspésie, la Abitibi, Témiscamingue, mais il faut pas aller très loin, là, pour susciter, en fait, pour soulever l'enjeu de l'équité dans les Laurentides.
Oui.
Ça fait des années que dans les Laurentides, on revendique exact. De meilleurs soins en région. Il y a une coalition qui a été formée, qui n'est pas entendue par Québec. Ça ne passera jamais, ça, Paul. Jamais. Il y a 90 députés à la CAQ. Il y en a plusieurs qui sont...
C'est sûr.
Bon, quelques-uns
Nathalie,
sont en région,
Nathalie,
mais oubliez
va,
ça.
Là. Regarde, il va continuer de se produire ce qui se produit, c'est-à-dire opérations reportées, des chirurgiens qui ciblent des opérations mineures plutôt que majeures non. parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le plateau opératoire nécessaire pour le faire. Un manque de personnel, c'est ça qui se passe en ce moment, là. C'est
non,
ça,
mais
là.
C'est... Ce que M. Maurice Gaudreau a dit, c'est que ça prend un minimum en matière d'accès à des soins spécialisés. La chirurgie, par exemple, un médecin, pas un médecin non, mais, peut-être pour... Oui, mais non, ça mais prend un minimum de services.
Oui, mais pour donner le minimum, il faut que tu aies le personnel pour le faire. Puis c'est là, tu es en train de découvrir, je te dis pas partout, là, mais moi, je te dis, il y a une liste qui existe de 13 hôpitaux qui pourraient être complètement transformés ou fermés. Puis l'autre exemple que je vais te donner, là, puis ça aussi, c'est pas très populaire. Tu sais, quand tu parles de ces mini-hôpitaux qui vont être des... Si tu penses que tu vas avoir toutes les spécialités disponibles dans ce mini-hôpital, oublie ça. T'es mieux d'en faire un pour les fractures, t'es mieux d'en faire un en pédiatrie pour que les bébés soient vus là, mais de penser que tu vas offrir la gamme des services. Nous autres, on pense qu'on peut tout offrir, puis là, tu dis, ouais, mais on n'a pas le personnel, puis ben, tu sais...
Mais d'où la volonté du ministre de dire aux médecins spécialistes, maintenant, vous allez avoir une obligation populationnelle, c'est-à-dire que vous allez devoir contribuer ouais. davantage à couvrir certaines régions qui ne sont pas desservies par des spécialités dites minimales. Mais politiquement, là, oubliez ça, ça ne passera jamais, ce genre de réforme. Tu parles de 13 hôpitaux, là, je sais pas,
oui,
tu viens de mettre le feu, là, la prochaine question, c'est quoi la liste des
non,
hôpitaux
mais,
en question?
Mais,
peux-tu avoir la liste?
Ben, je l'ai pas la liste, mais je ouais. sais que ça existe, puis je sais que les fédérations en parlent, puis le Collège des médecins, puis il faudrait, tu sais, ils rentrent d'une tournée, ils voient des hôpitaux vétustes. Est-ce que tu laisses ça comme ça, puis ou tu fais croire au monde que tu vas rénover?
Hey, non, mais les citoyens de région, ils paient des impôts comme tout le monde, n'est-ce pas? Ils ont droit d'avoir un minimum de services en matière de soins hospitaliers. On peut arrêter routes, la concentration et des services routes, et des routes, effectivement.
Des écoles,
alors, je vous le dis, là, si jamais... C'est... Mais le ministre, il n'ira pas dans cette direction-là parce qu'il y a trop de chaudrons maintenant. Il y a trop de
tant et aussi longtemps
dossiers à régler.
Que M. Ouais. Dubé, puis tu as raison, là, à l'appui du premier ministre, il va pouvoir faire avancer. Mais j'ai raconté plus tôt ce matin une anecdote que mon ami Jean Cournoyer m'avait racontée. Il était ministre du Travail, puis c'était la grève des policiers de la Sûreté du Québec. Et M. Bourassa l'avait appelé en disant, Jean, tu vas aller les voir à Drummondville, puis tu vas tenir la ligne dure, puis c'est pas parce qu'ils ont des guns qui vont nous faire peur. Et M. Cournoyer avait parti, puis dans ce temps-là, t'avais pas de téléphone dans les autos. Fait qu'il part de Montréal, s'en va à Québec, à Drummondville, arrive à l'Assemblée des policiers provinciaux. Jean a dit, je rentre. Le président du syndicat vient me voir. Je viens de parler à M. Bourassa. Tout est réglé.
Non.
Certainement. Tout est réglé.
C'est ce qui risque de se passer aussi.
Il dit, il m'a demandé d'aller tenir la ligne dure. En moins de 2 heures, lui, il pogne le téléphone, il appelle le président du syndicat, puis il règle ça. Alors, M. Cournoyer disait, au Québec, il y a un ministre, puis c'est le premier. Les autres, oublie ça.
Ben, à suivre, s'il va être capable de défendre ça. Parce qu'effectivement, les médecins spécialistes ont déjà dit plusieurs fois c'était quoi leur point de vue. Très calmement, ils te disent, tu regardes dans les yeux, ben nous autres, on n'est pas contre. Tous ces chiffres-là, on est d'accord. Tu peux des... Ils ne sont pas confrontationnels. La seule chose, c'est qu'on va perdre des... On ne va pas toutes les perdre, mais mettons, on va en perdre 10 %. On va aller en Ontario. Puis ils ont des chiffres. Ils ont des chiffres. Combien qui sont partis en Ontario pendant telle réforme, puis telle affaire. Mettons qu'on en perd 5 % qui vont en Ontario, 10 % qui s'en vont au privé. Mais vous allez en avoir 15 % de moins. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec ça? Fait que c'est clair que là, il y a un travail de mise en œuvre, d'opérationnalisation de la réforme. À la fois sur ce que tu disais, la centralisation de certains services, puis être capable de faire plier. T'as vu les infirmières à Mauricie, comment ils sont sortis aussi. Les infirmières, les spécialistes, les politiciens, il y a beaucoup de monde aligné contre la réforme, potentiellement contre.
On s'arrête là-dessus.
Un dernier commentaire, Paul, potin, il semblerait que la liste de candidatures pour les Top Gun est assez volumineuse.
Oui.
Mmh. Oui, j'ai su.
Mais c'est eux autres même qui ont considéré
Elon Musk.
Top Gun.
Elon Musk a envoyé son CV.
Non, mais j'ai su de sources sûres qu'ils sont étonnés du nombre de candidatures de personnes qui ont levé la main pour faire partie des Top Gun. D'ailleurs, je me disais, toi, Paul, qui est à la retraite dans un an, là, quel beau défi pour toi en fin de carrière de finir Top Gun.
Oui, c'est sûr. Après tout ce que j'ai dit sur le ministère de la Santé, je pourrais même pas me rendre au bureau. Merci. Au retour, on va parler de Éric Kerr. Ça a l'air que notre merveilleux système de paie du gouvernement marche pas tout à fait correctement. C'est une surprise.
La commission Normando-Ferrandaise.
On a vu le cas de la Société d'assurance auto. Là, maintenant, c'est le système de paie du gouvernement qui connaît des ratés, des heures non comptabilisées, des montants qui ne sont pas ajoutés correctement. Ça nous fait penser au système Phoenix. Et la grande question existentielle de la journée, ça sert quoi d'avoir un ministère de la cybersécurité et du virage numérique? Nathalie.
C'est une excellente question. Est-ce qu'on est surpris de tous ces ratés? Le plus ironique dans cette histoire-là, c'est qu'en 2017, alors qu'Éric Kerr était dans l'opposition, voici ce qu'il disait des misères de SAGIR parce que les payes au gouvernement sont gérées par par SAGIR. SAGIR, c'est quoi? C'est solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources. Il disait ceci. Il parlait de SAGIR comme un exemple de l'inefficacité chronique du gouvernement gérer les projets informatiques d'envergure. Et aujourd'hui, le type en question est devenu ministre du ministère qui gère SAGIR. Non, mais c'est assez incroyable. Savez-vous combien de gouvernements sont passés à travers SAGIR à partir du moment où on a annoncé qu'on le créait? Et aujourd'hui, 7 gouvernements. 7 premiers ministres.
Pour 80 000 payes, c'est pas
exactement.
C'est pas fini.
Lucien Bouchard. Non, c'est ça. Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jean Charest, Pauline Marois, Philippe Pouillard, François Legault. Au départ, SAGIR, ça devait être un projet qui devait coûter 83 millions. Les estimés, on est rendu à 1,2 milliard de dollars.
Et tabarouette.
Non, je vous dis, c'est... Et à une certaine époque, il y a 240 consultants qui travaillaient à la mise en œuvre de cette solution informatique. Lorsque Martin Coiteux était président du Conseil du Trésor, il en a mis 80 à la porte. Mais de ces consultants, tenez-vous bien, certains étaient payés jusqu'à plus de 2 400 $ par jour. par jour, imaginez. Alors, après ça, on se demandera pourquoi ça nous coûte si cher. Parce que je vous parle de 1,2 milliard, ça, c'est pour son implantation après les 7 phases. Puis je sais pas s'il est terminé, mais là, clairement, il y a des difficultés. Puis, il faut ajouter aux 1,2 milliard 50 millions par année pour l'opération du système. Alors, quand tu regardes ça, tu dis, ça, c'est un exemple. Je pourrais vous parler de Rainier. Toi, tu parles souvent policier, Paul. Rainier, ça,
c'est quoi ce Rainier?
Rainier, c'est le système qui a été mis en place pour les communications entre les différents dans la Sûreté du Québec.
Oui,
par
oui,
exemple.
Oui, 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 oui,
oui. Tu te souviens
oui,
de
oui,
ça?
Oui, 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 oui. Un autre brillant succès.
Oui, Motorola, le seul fournisseur capable de fournir le matériel et compatible avec le réseau mis en place. Ben, tenez-vous bien, 946 millions depuis 2002. Puis entre 2017 et 2027, 220 millions par année. Voulez-vous que je vous parle du DSQ, le dossier Santé Québec, 565 millions.
Le registre des armes à feu au fédéral.
Oui.
Oui, la SAQ, on est rendu à 458 millions. Et là, je vous ai pas encore parlé du dossier de santé numérique. Celui-là, il est à venir. Le DSN. 3 milliards d'estimés.
Mais ça, Éric Kerr s'en occupe pas. Ça, c'est pas dans sa cour. Toutes ces affaires-là, là, ça relève pas de lui. Là. Je m'excuse, j'ai rien à voir là-dedans.
Non,
là.
Mais tout ça pour dire qu'on, le gouvernement n'est pas vraiment, on n'est pas bon pour ce qui est des
attends,
de
pas bon, pas bon. Mais non, mais moi, je pense pas que c'est une question d'être bon ou pas bon. Je pense que c'est la nature même de ces systèmes-là. C'est-à-dire que, puis d'ailleurs, ils sont tous comme ça, le Phoenix au fédéral. Le Phoenix au fédéral aussi, hein, en préparation de 2010 à 2016. Devait épargner 70 millions, a coûté 2,1 milliards de dollars de réparation depuis. Et cette année, en 2022, il y avait encore 200 000 erreurs. Fait que c'est tous les systèmes d'information. Parce que la base des systèmes d'information, c'est un gars qui vient de vendre une idée. T'auras plus des personnes qui vont prendre la paye, qui vont saisir la paye, puis qui vont négocier avec la personne devant elle, ça va tout être centralisé. Tu vas avoir 60 personnes dans un bureau quelque part, toutes les payes de tout le monde vont arriver là. Puis là, eux autres, ils ont des codes. Code d'heures supplémentaires, convention collective A, code de temps supplémentaire, c'est ici, tapis Saint-Piton, clic, 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 la paye, elle sort. Donc, en théorie, quand ils vendent ce système-là, ils disent tout le temps, tu vas économiser 70 employés, 80 employés à 60, salaire complet 80 000 $ de l'heure fois tant d'années, tu viens de faire une économie de X millions. C'est tout le temps ça le pitch de vente. Mais le problème, c'est que les systèmes sont pas capables de faire deux choses. Du gros volume dans la diversité. C'est-à-dire, du gros volume, oui, mais dans la diversité. C'est-à-dire, la convention collective, on a vu, là, 136 cas différents de conventions collectives pour la santé. Ben, t'as 136 cas. Puis dans certains cas, ben, il y a eu un déplacement d'employés, il y a eu du temps supplémentaire qui était payé ou pas payé en fonction de ce qui avait été convenu dans la dernière convention collective. Juste la dernière convention collective, ça met une charge de travail gigantesque sur les systèmes. Là, c'est rendu là avec Phoenix qu'ils n'osent pas prendre une journée de congé.
La dernière convention, là, t'avais les payes, là, puis les primes, puis tout ça, là, et l'équité salariale. T'en rends-tu compte là, de ce que ça représente?
Ça va être prêt en 2041. Parce que c'est l'important de comprendre, c'est que le personnel qui pouvait gérer les payes a disparu. Il n'est plus là. On a dorénavant d'autres postes. Puis même le cadre qui disait, regarde, t'es rentré 4 heures vendredi, t'étais pas supposé, ben lundi, rentre donc à midi, c'est correct. Ce cadre-là, il n'existe plus. Il n'est plus là. Ça a été centralisé. Donc, toutes les petites possibilités d'adaptation des systèmes ont disparu puis sont gérées par 60 personnes qui ont des livres de conventions collectives puis des codes. Puis un système qui, des fois, fait bip. Fait que voilà.
Ouais. Ben, en fait, deux choses. Un, les conventions collectives sont rendues probablement trop compliquées à gérer. Deuxièmement, le système qui a été mis en place, SAGIR, est incapable de traiter les particularités parce qu'il est trop rigide. C'est ce qu'ont dénoncé des intervenants dans l'article publié hier dans le Journal de Montréal. Écoutez, le Syndicat des agents de la faune, l'Association des ingénieurs du gouvernement du Québec, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, le président des agents de la paix en service correctionnel. Là, j'oublie le responsable, le représentant des contrôleurs routiers également, M. Daigneau, qui s'est exprimé. Ça commence à faire pas mal de monde qui dénonce le système. Tu dis à un moment donné, je comprends.
Mais il marchera jamais.
C'est pas une question
Nathalie,
d'être bon
jamais.
Pas bon, mais, non, mais comment se fait-il, Luc, qu'on achète ce type de solution?
Ah, mais là, Nathalie, là, je peux te dire, j'ai participé à des pitches de vente.
Oui. Là, bon, tu vendais ça, toi, ce genre de système?
Non, mais j'ai travaillé chez Hydro-Québec pour une implantation d'un gros système informatique. Puis là, t'as le consultant qui arrive, puis là, il a mis une antenne sur un frigidaire, il met ça dans un coin, il dit ça, c'est notre unité centrale de contrôle. puis là, on va tout régler vos problèmes. Vous avez combien de systèmes? 230? On va vous en réduire ça à un système. Mais ce qu'il ne dit pas, Ce qu'il dit pas, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de fonctionnalités des 230 systèmes que tu avais, que le système central n'est pas capable de faire. Fait qu'en fait, ce qu'il dit, c'est toi, tu dois simplifier tes conventions collectives pour que mon système soit capable de fonctionner.
T'as-tu en une... principe, on crée ce genre de système pour assurer plus d'efficacité dans la gestion de l'État.
Non, non, mais c'est ça le fantasme. Le fantasme, il fonctionne pas. Le fantasme, je vais couper des employés, je vais tout centraliser. Mm. Ou ça marche si tu simplifies les conventions collectives.
Merci à tous les deux.
On est mal barré.
Oh non, mais ça, on est mal programmé. Tu comprends? T'sais...
On comprend.
Oui, toujours un grand plaisir. On vous retrouve demain.
C'est 23.